Le premier mystère joyeux, c'est l'Annonciation. Je voudrais garder deux détails de ce mystère que je propose à votre méditation. Le premier, c'est la manière dont Marie regarde le Père. Marie est toute bouleversée à l'annonce de l'ange, mais avant l'annonce, il y a la salutation de l'ange. Marie est toute bouleversée par la salutation de l'ange. Je te salue, comblée de grâce. Marie ne sait jamais regarder elle-même. Marie s'ignore totalement elle-même. Oui, on dit quelquefois que telle personne, elle est pleine d'elle-même, quand on veut dire qu'elle est un peu orgueilleuse, elle se grossit, elle se grandit. Il y a des gens qui sont pleins d'eux-mêmes. Marie, elle est vide d'elle-même, absolument vide d'elle-même. Elle ne sait jamais regarder elle-même. Elle ne regarde que Dieu. Elle regarde le Père. Elle est captivée par le regard de Dieu. Elle est tout entière absorbée dans le regard du Père. Et tout d'un coup, l'ange la salue et lui dit son nom, comblée de grâce. Qui suis-je donc pour être appelé comme ça? Qui suis-je donc pour être comblé de grâce? Marie découvre le regard du Père sur elle. Elle regardait le Père depuis qu'elle était toute petite fille. Et là, elle comprend le regard d'amour, le regard de tendresse, le regard de Dieu, dans lequel elle est comblée. Elle est absolument transparente à la grâce de Dieu. Tellement transparente, dira Saint Maximilien Marie Kolbe, que quand je regarde Marie, je vois l'Esprit Saint. Rien en elle ne fait obstacle à l'Esprit Saint. Rien en elle n'est opaque. Tout est absolument transparent. Admirons cette transparence et demandons à la Vierge Marie de nous apprendre à ne pas nous regarder nous-mêmes, à être tout entier tourné vers le Seigneur. Le deuxième détail que je propose à notre méditation, c'est la dernière phrase de ce texte. Et l'ange la quitta. Marie se retrouve seule, absolument seule, comme enfermée dans le secret qu'elle a reçu. L'ange la quitta. Il nous arrive à nous aussi parfois de nous sentir très seuls. On aimerait bien garder un ange à côté de nous. On aimerait bien avoir une aide à côté de nous. Mais Dieu nous laisse seuls. Et si nous sommes seuls, c'est parce que, au fond, nous avons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en nous, mais il est invisible. Il est insensible, nous ne le touchons pas, nous ne le sentons pas, nous ne sentons pas sa présence, c'est seulement dans l'acte de foi. Oui, nous croyons qu'il est là, qu'il nous guide, mais qu'il nous guide dans le secret de nos cœurs. Prions cette dizaine en pensant à toutes les personnes qui se sentent si seules, demandons à l'Esprit Saint de se révéler à eux, et puis demandons à la Vierge Marie de nous apprendre à ne pas nous regarder nous-mêmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom... Le deuxième mystère joyeux, c'est la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Je voudrais regarder d'abord cette salutation. La façon dont Marie salue Élisabeth, la façon dont Élisabeth salue Marie. Élisabeth est à l'âge de la grand-mère. Si Marie a une quinzaine d'années, Élisabeth a passé la cinquantaine. Elle a passé l'âge où les femmes ont des enfants. Et la voilà jeune maman. Deux jeunes mamans qui se rencontrent. Marie est toute neuve, enceinte. Et Élisabeth est à 3 mois du terme. Une joie profonde chez Élisabeth et chez Marie. Cette salutation, il n'y a pas l'ombre d'une mondanité, aucun mot inutile, aucun mot qui ne sert à rien. C'est bien simple, cette salutation est profondément silencieuse. Un regard. Vous savez, une mère spirituelle au Carmel qui disait toujours, vous savez François, on ne dit jamais autant que quand on ne dit rien. C'est quand on se tait qu'on dit beaucoup plus. Dans le regard, dans le sourire, dans les yeux, on voit tellement plus. Les conversations souvent sont tellement inutiles, tellement bavardes. Aucun bavardage entre Marie et Élisabeth. La profondeur d'un regard, parce que toutes les deux regardent l'enfant qu'elles portent. Toutes les deux sont transportées par l'enfant qu'elles portent. Et Élisabeth, sous le souffle de l'Esprit-Saint, découvre que Marie porte son enfant Dieu. « Comment ai-je ce bonheur ? » s'écrie-t-elle. « Comment ai-je ce bonheur que vienne jusqu'à moi la mère de mon Sauveur ?» Tous les autres mots sont inutiles et tellement, tellement vains à côté de ça. « Comment ai-je ce bonheur que vienne jusqu'à moi la mère de mon Sauveur ?» Ce soir, la Vierge Marie vient jusqu'à nous. Elle nous donne Jésus encore une fois. Elle nous donne Jésus sans cesse. Elle nous le donne comme l'Église nous le donnera tout à l'heure dans l'Eucharistie. Alors Marie exulte de joie, elle va chanter son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Je voudrais regarder longuement cette joie de Marie. Marie n'explose pas de joie, elle a une joie silencieuse, elle a une joie profonde, elle a une joie très intérieure, elle a une joie déjà douloureuse parce que elle voit déjà, sans le savoir, mais tout ce qui l'attend. Marie est profondément joyeuse de cette présence qui est en elle. Et toute l'écriture qu'elle connaît par cœur lui monte dans le cœur. Oui, le Seigneur a regardé l'humilité de sa servante. Et c'est pourquoi toutes les générations me diront bienheureuse. Marie, qui ne s'est jamais regardée elle-même, regarde son Fils. Elle nous regarde ce soir. Elle est heureuse, elle est sans cesse, éternellement joyeuse de cette joie de la présence. Puissions-nous, dans cette dizaine, nous laisser emporter dans la joie d'Élisabeth qui accueille Marie et dans la joie de Marie qui porte Jésus. Nous aussi portons Jésus pour le monde. Le monde a tellement besoin de la présence de Jésus. Le monde attend le Seigneur. Alors, puisque nous le connaissons, nous autres, nous avons la joie de le connaître. Puisque le Seigneur nous a regardés et nous a donné sa mère, accueillons Jésus pour le donner au monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors le troisième mystère joyeux, c'est la naissance de Jésus à Bethléem. Et je voudrais faire un petit retour en arrière et vous faire rire un peu. À Nazareth, la vie se passe bien. C'est joyeux, Marie est enceinte, on arrive près du terme. Joseph n'est pas spécialement anxieux, mais il se préoccupe quand même de Marie. Il est chargé de la garde de Marie, et pour lui c'est quand même un gros, très important. Et puis un soir, Joseph rentre du travail, il est soucieux, Marie le voit tout de suite. Et Marie se demande ce qui se passe. Joseph est vraiment soucieux, il n'ose pas le dire, mais... Finalement, Marie ne pose pas de questions comme une vraie épouse. Mais Joseph n'en peut plus. Il dit à Marie, tu sais, il t'est arrivé une tuile, je ne sais pas comment on va faire, mais César a décidé de faire un recensement. Et puis il faut qu'on aille à Bethléem, parce que je suis de la maison de David. Alors il faut aller à Bethléem, mais comment on va faire? Mais tu es enceinte, on est tout près du terme, mais tu te rends compte, c'est catastrophique. Tu ne vas pas faire ce voyage comme ça maintenant. Je vais y aller tout seul, mais non, je ne peux pas y aller tout seul. Comment? Et Marie saute de joie. Elle dit, mais le Messie doit naître à Bethléem. Ça fait 9 mois que je me demandais comment il ferait pour naître à Bethléem, puisqu'on habite à Nazareth. Jésus, Dieu plutôt, Dieu est dans les pépins. Vous voyez, là, il y a un gros pépin, une tuile, et Dieu est dans la tuile. Et souvent, dans notre vie, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gros trucs imprévus, et puis on se dit, mais qu'est-ce que fait le Seigneur? Mais non, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là précisément. Il arrange tout à sa manière, à lui. Joseph a appris la paix auprès de Marie parce qu'il a compris que Dieu conduit toutes choses. Et je regarde ce Joseph qui conduit Marie sur un petit âne pendant les jours du voyage jusqu'à Bethléem et ces deux pauvres gens qui vont comme ça avec eux. Un bébé qui va naître dans quelques jours. Et pendant ce temps-là, un César Auguste dans son palais à Rome qui se prend pour Dieu et qui exige un recensement de toute la terre. Il y a des hommes comme ça qui jouent à Dieu pendant que Dieu joue à l'homme, tout pauvre, tout petit, tout invisible, tout discret. quel contraste! L'homme qui se fait plus grand que Dieu, mais qui est ridicule dans son orgueil, et Dieu, lui, qui se fait voir aux pauvres, qui se donne à voir aux gens simples, mais qui se cache aux yeux des grands. Père, dira Jésus, je te rends grâce parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits. Marie est cette toute petite fille d'Israël. Elle comprend tout parce que Dieu le lui révèle par l'Esprit Saint. Et puis en arrivant à Bethléem, il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. Joseph est inquiet, comment on va faire? Et puis on se retrouve dans cette étable, dans la crèche. Mais c'était providentiel encore une fois parce que Jésus devait être dans une mangeoire. Il devait être emmailloté de l'ange parce que c'était déjà l'annonce de la passion, c'était déjà l'annonce du sépulcre. Jésus devait se donner comme une nourriture pour le monde. Jésus devait être enveloppé du linceul après sa mort. Et tout cela était déjà annoncé dans la crèche. Marie a accepté cette pauvreté et Joseph avec Marie. Et finalement, ils ont vécu cette naissance dans le grand secret de leur joie, le secret de la nuit. Seuls les bergers ont accès à la crèche, seuls les gens tout simples, tout pauvres. Puissions-nous être nous aussi très pauvres, très simples, comme des enfants, pour aller vers la crèche, pour rencontrer vraiment Jésus, l'enfant Dieu. À l'école de Marie, apprenons la paix du cœur. Arrêtons de nous inquiéter quand le monde gronde, quand le monde est dangereux, quand le monde fait les gros, le gros ventre et les gros yeux. Jésus est présent et Jésus va naître dans notre monde. Mais le monde ne le sait pas, le monde ne le connaît pas. Même les responsables religieux ne l'attendent pas. Mais nous, si nous sommes assez petits, nous l'attendons et avec Marie, nous l'accueillerons dans notre cœur. C'est notre cœur qui deviendra sa crèche. Rendons grâce au Seigneur et apprenons de Marie l'attente brûlante, le désir brûlant de Jésus, sans impatience, mais avec une grande hâte du cœur. Nous nous levons pour le Notre Père. Le quatrième mystère joyeux, c'est la présentation de Jésus au temple par Marie et Joseph. Et vous rappelez ce vieillard Siméon qui a été poussé par l'Esprit Saint pour aller au temple ce jour-là, et qui prend l'enfant dans ses bras, tout heureux, tout joyeux de pouvoir voir de ses yeux le Seigneur Dieu. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais pour ton peuple, lumière qui éclaire les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon, comme Élisabeth autrefois, a compris sous le souffle de l'Esprit Saint qu'il s'agissait bien du Seigneur Dieu, Dieu bébé qu'il tient dans ses bras. Et Siméon n'a qu'un désir, un seul désir qui conduit toute sa vie, voir Dieu. Pendant l'Avent, notre désir doit se concentrer sur le Seigneur, sur le désir de voir Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, dit le psaume, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Oui, mon âme a soif de toi. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Je cherche le visage du Seigneur. Quand le verrai-je face à face? Mais je le verrai face à face le jour où, enfin, je serai présenté dans la salle du trône, le jour de ma mort. Le jour de ma mort, c'est le jour le plus important de ma vie, parce que je verrai Dieu, c'est le grand rendez-vous d'amour. Je passerai ma vie à préparer ma mort. Le jour le plus important de ma vie, c'est ce jour où enfin je le verrai de mes yeux. Rien d'autre n'a d'importance que ça, voir Dieu. Mais Siméon annonce à Marie, et ce mystère joyeux est déjà douloureux, Siméon annonce à Marie qu'elle devra elle-même passer par de grandes souffrances. Ton fils que voilà sera un signe en but à la contradiction. Et toi-même, ton cœur sera transpercé d'un glaive. Oui, la mission du chrétien, c'est d'être dans le monde comme Jésus et comme Marie, un signe de contradiction. Souvent, je vois des chrétiens qui voudraient défiler dans les rues. Laissez-nous être chrétiens tranquilles. Mais non, un chrétien tranquille n'est pas chrétien. Le chrétien a pour mission de proclamer la vérité dans un monde de mensonges, de proclamer l'amour dans un monde de haine. C'est normal que le monde ne nous aime pas. C'est Jésus lui-même qui nous l'a dit. Mais nous, nous sommes invités par l'Esprit Saint. Nous sommes guidés par l'Esprit Saint. Et nous n'avons pas à avoir peur, parce que l'Esprit Saint nous conduira tous les jours de notre vie. C'est vrai, nous passerons sans doute par de grandes souffrances. Notre monde passe par de grandes souffrances. Et l'Église dans le monde doit être persécutée comme Jésus l'a été, comme Marie l'a été, comme tous les saints l'ont été. Mais ce sera l'offrande, ce sera l'occasion pour nous d'une véritable offrande. Ce sera l'occasion pour nous d'être unis à Jésus dans sa passion pour le salut du monde. N'ayons pas peur de ce qui nous attend. Nous ne savons pas ce qui nous attend. N'ayons pas peur de ce qui peut arriver à l'Église. Nous ne savons pas ce qui arrivera. Mais nous savons une chose sûre et certaine, c'est que le Seigneur est avec nous aujourd'hui et il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous n'avons rien à craindre, puisqu'il est là, qu'il nous donne la force. Nous aurons la grâce jour après jour, ni pour la veille, ni pour le lendemain. Chaque jour, nous demandons aujourd'hui le pain d'aujourd'hui, la grâce d'aujourd'hui, et elle nous suffit pour passer au jour suivant. Demandons à la Vierge Marie d'être confiante devant l'avenir. Le seul désir, c'est voir Dieu, et nous le verrons à travers les souffrances de ce monde. Mais ces souffrances ne doivent pas nous faire peur, elles doivent au contraire nous réjouir si elles sont pour nous l'occasion d'offrir quelque chose au Seigneur pour le salut du monde et de ceux que nous aimons et qui ne connaissent pas Dieu. Levons-nous pour dire avec confiance cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors le cinquième mystère joyeux, je me demande toujours pourquoi il est joyeux. Parce qu'il est tellement douloureux. Oui, il est joyeux parce que Marie et Joseph ont retrouvé Jésus, mais c'est quand même une telle croix déjà pour eux. Pendant 3 jours, Jésus a disparu. Et Marie et Joseph, qui croyaient qu'il était parmi les connaissances, il était avec ses amis, ses cousins, puis en réalité, il n'était pas avec eux, alors ils retournent à Jérusalem et ils le cherchent. Et ils le retrouvent dans le temple, en train de parler avec les docteurs de la loi. Alors il faut écouter profondément ce que dit Marie, la question de Marie. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert, ton père et moi, en te cherchant. Ton père et moi. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase. D'abord, Marie ne dit pas ton père adoptif, ou ton père putatif, ou ton père ci, ou ton père ça. Ton père et moi. Ça veut dire que Marie regarde vraiment Joseph comme le père de Jésus. Et Marie regarde vraiment Joseph comme son époux. Il est son époux et elle l'aime. C'est plein de tendresse ce que dit Marie, ton père et moi. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Marie parle à Jésus. Et Jésus aura une réponse tellement étonnante. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Est-ce que je ne dois pas être aux affaires de mon Père? Marie, il faut entendre profondément le ton de Marie, la manière dont Marie parle à Jésus. Marie ne revendique pas. Marie ne demande pas des comptes. Vous voyez, on pourrait voir des mères de famille avec les mains sur les hanches. Mais dis donc, t'aurais pu nous prévenir quand même, qu'est-ce qui t'est arrivé? Marie n'est pas comme ça. Marie ne demande pas des comptes à Jésus. Marie sait bien qui est Jésus. Elle sait que Jésus est fils de Dieu. Elle sait que Jésus est Dieu lui-même. Marie sait qu'il a été engendré en elle par l'opération de l'Esprit Saint. Marie respecte infiniment Jésus. Un enfant qui a 12 ans, un enfant qui est parfait, un enfant qui ne fait pas de bêtises, un enfant qui est parfaitement obéissant, un enfant qui apprend tout si vite, si bien, si parfaitement. Et si Jésus a fait faux bond à son père et à sa mère pendant 3 jours, c'est pas parce qu'il a fait une fugue, c'est parce qu'il voulait leur dire quelque chose. C'est vrai que Marie et Joseph ont souffert en cherchant Jésus. Mais une fois encore, comme le troisième mystère, Joseph a appris de Marie cette espèce de paix incroyable. Marie n'est pas angoissée. Marie souffre. Mais elle cherche Jésus sans angoisse, sans inquiétude humaine. c'est une inquiétude toute divine, c'est le don de crainte, c'est l'Esprit Saint qui la pousse. Et quand elle pose cette question à Jésus, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Elle ne demande pas des explications, elle demande simplement, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Oui, devant une souffrance, devant un accident, devant une maladie, devant quelque chose qui n'est pas prévu, qui est comme un mur qui se met en travers de la route parfois, nous sommes en train de demander des comptes à Dieu. Mais enfin Seigneur, mais je prie tous les jours, je vais à la messe tous les dimanches ou même tous les jours, et puis tu me fais ça à moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Nous n'avons pas de compte à demander à Dieu. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. La seule chose que nous ayons à faire, c'est demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette maladie? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers cet événement? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette souffrance ?» Il n'y a pas et il n'y aura jamais de réponse à la question « Pourquoi ?» La seule réponse, c'est une réponse intérieure que souvent je ne comprendrai qu'après. Marie et Joseph n'ont pas compris ce que leur disait Jésus. C'est en toutes lettres dans l'Évangile. Ils ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Mais Marie conserve toutes ces choses dans son cœur pour les méditer soigneusement. Elle comprendra au moment où Jésus sera au tombeau après sa mort. Quand toutes les femmes seront affolées et trépigneront pour aller au tombeau avec les aromates pour faire achever ce qu'on n'avait pas pu faire le vendredi, Marie, elle, attend patiemment ce que Jésus a promis. Elle souffre terriblement, mais elle espère, elle croit, elle aime. Et elle sait, cette fois-ci, elle a compris, elle sait que Jésus est aux affaires de son Père. Alors elle ne demande pas de compte, elle ne demande rien d'autre que la force d'attendre, la force de la patience, la force de la souffrance. Regardons Marie, contemplons la Vierge Marie, qui accepte de ne pas comprendre, qui garde toutes ces choses pour les méditer dans son cœur, et qui, jour après jour, par l'opération de l'Esprit Saint, entre plus profondément dans la volonté de Dieu. Elle adhère, elle consent à la volonté de Dieu, de quelque manière qu'elle se présente, jusqu'au calvaire, jusqu'à la mort de Jésus. Oui, demandons la grâce dans cet avant, d'accepter la vie telle qu'elle est, d'accepter les événements du monde tels qu'ils sont, sans chercher à comprendre, mais en demandant au Seigneur la grâce de comprendre seulement comment nous devons les vivre au mieux comme des saints. Notre Père.